en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier, mes chers confrères. D'abord, il faut que je vous remercie, Monsieur le Président, parce que vous m'avez attribué un morceau de choix, tout de même, puisqu'il s'agit, à travers la question des humanités, d'embrasser au moins 20 siècles d'histoire intellectuelle en une demi-heure, un peu comme un archéologue qui décrit les couches successives de son terrain d'étude, et de tracer les grandes lignes de ces transformations pour en identifier l'héritage dans le présent. Cette mission m'a tout de suite paru ressembler à celle de la sonde Rosetta et de son robot Philae, allant quérir sur une comète les origines du système solaire, mais pour moi il s'agit plutôt des origines du système scolaire. Car poser la question des rapports entre humanité et sciences humaines exige d'entrée de jeu de faire des choix difficiles. Choix de la langue, choix des mots, car les humanités en français, pour commencer, n'ont déjà pas le même sens que l'anglais « humanities ». Dans le monde anglo-saxon, cette notion désigne un vaste ensemble de disciplines universitaires, les langues, les littératures, la philosophie, l'histoire, les arts, la géographie et même le droit. Et encore faut-il préciser qu'il n'y a pas de définition unique des humanities, pas plus qu'il n'en existe des human sciences. Celles-ci recouvrent en partie les humanities, puisque les sciences humaines anglo-saxonnes englobent des disciplines telles que la linguistique, la philosophie, l'anthropologie, l'économie. C'est donc une relative confusion qui se présente devant nous, mais l'usage en France a fait que désormais on appelle dans les universités ou dans les grandes écoles, on appelle humanité, l'ensemble des disciplines qui recouvrent les lettres, et même dans le secondaire, on appelle les humanités ce qui n'a guère été les lettres classiques, et qui d'ailleurs est l'enseignement secondaire désormais dans son ensemble, oubliant qu'à l'origine, les humanités, c'était essentiellement la langue, la littérature grecque et latine, l'étude qu'on en fait, l'amour qu'on a pour elles. Donc, je me tiendrai, pour éviter cette confusion lexicale d'emblée, je me tiendrai au sens traditionnel, et même étroit. C'est d'abord, et c'est une bonne raison, la définition que donne des humanités le dictionnaire de l'Académie française. Et ensuite, parce que la préférence pour la notion anglo-saxonne réduirait la question que vous posez à une délimitation de frontières. Mon exposé consisterait à essayer de savoir où se situe la frontière entre humanité et sciences humaines, et ce serait sans doute une question un peu vaine et en tous les cas insoluble. Humanité et sciences humaines ont au moins un point commun. Ce sont deux pluriels. Le pluriel des sciences humaines s'explique aisément par la multiplicité des disciplines concernées, je viens de le dire. Humanité au pluriel, si je peux dire, c'est plutôt singulier, parce que l'expression apparaît à la Renaissance sans qu'on puisse donner d'explication totalement limpide du passage du singulier, le latin humanitas, au pluriel français, les humanités. Formées bien après les études classiques, les sciences qui ont l'homme pour objet ont connu depuis la fin du XIXe siècle un grand essor, qui a coïncidé d'ailleurs avec le grand recul des humanités au sens classique. Et s'il existe un lien de cause à effet entre l'essor des unes et le déclin des autres, il faut l'expliquer dans son contexte, j'aurai d'ailleurs l'occasion d'y revenir. Une mise en perspective est donc nécessaire, c'est pourquoi, si vous le permettez, je suivrai un plan historique. Je commencerai par un retour vers l'Antiquité, et après ce rebond, qui je l'espère me laissera mieux retomber sur mes pieds que le robot de ma comète, je ferai plusieurs rebonds dans les temps modernes et contemporains, pour finir par quelques réflexions sur le présent, avant d'user mes dernières batteries en répondant à vos questions. Au commencement d'ailleurs, dans l'Antiquité, il n'y avait pas d'humanitas, Mais en revanche, on savait ce qu'était l'inhumanitas. Pour les Romains, les premiers hommes, y compris les fondateurs de Rome, c'était des hommes, certes, mais pas des humani. C'est-à-dire qu'ils vivaient en sauvage, ils étaient dispersés, ils vivaient chacun pour soi, en lutte violente les uns contre les autres. Au fond, les hommes sont comme les plantes, ils existent sous deux formes, à l'état sauvage et à l'état de culture. Pline suggère même que le latin humanitas est une traduction tardive, venue de Grèce. Humanitas traduirait alors philanthropia, c'est-à-dire la qualité d'un homme bienveillant, amène, délicat avec ses amis, mais aussi avec ses gens de maison, qui sait être clément lorsqu'il est juge, qui sait faire des remises d'impôts s'il est au pouvoir, c'est Pline qui le dit, qualité devenue relativement rare, vous l'avouerez. Mais humanitas traduit aussi paideia, c'est-à-dire la qualité qui distingue le civilisé du sauvage, et plus encore, l'homme bien élevé de l'homme grossier, qu'il soit homme du peuple ou membre de l'élite, mais inculte et infréquentable. Dans son Lingua Latina, De Lingua Latina, Varron essaie de faire comprendre cette idée en disant « Un homme grossier inculte lorsqu'il a soif, n'importe quelle coupe lui convient, mais un homme doué d'humanitas souhaitera que la coupe soit belle et ouvragée. » L'humanitas, c'est donc un mos, le singulier de mores, des mœurs, ce qui en fait bien l'objet des sciences morales. Le mos, c'est à la fois un comportement et une disposition à adopter un comportement. L'humanitas, c'est un mos qui adoucit les relations humaines, sociales, politiques. L'homme humanus, l'homme doué d'humanité, a des qualités morales, bienveillance, générosité, équanimité. Il connaît les règles du savoir-vivre, il pratique la sociabilité, sa conversation est agréable, facile, détendue, drôle s'il le faut, mais aussi savante, avec ce plaisir du savoir et de la curiosité intellectuelle qui plaira tant aux humanistes, précisément, de la Renaissance. D'où, pour définir l'humanitas, l'importance capitale de la parole, dans les littératures antiques évidemment. La parole est le propre de l'homme. La maîtrise de la parole l'humanise, le relie aux autres par le dialogue, le rend apte à toutes les vertus. Ce que nous appelons d'ailleurs parole en français, les Grecs l'ont d'abord appelé mutos, le récit, la narration, puis logos, la réflexion, le discours, et les Romains, les imitants, ont distingué à leur tour ratio, ce qui permet de connaître, de contempler la vérité, le discernement, et oratio, ce qui permet de persuader la rhétorique, l'art oratoire. Une fois définie cette humanitas, au singulier, comment elle inculquer aux enfants pour qu'ils deviennent des humani, des humains, qu'ils soient doués d'humanité à leur tour? Aussi loin que l'on remonte dans le temps, nous trouvons que cette éducation a d'abord constitué essentiellement à lire et à étudier les auteurs anciens. Homère, Virgile, Platon, Sénèque, Thucydide, Tacite, Démosthène, Cicéron, tous disent que l'expérience de l'humain, le discernement de l'humain, le cheminement vers l'humain s'apprend par la lecture des auteurs les plus sages et les plus éloquents. Les enfants, puis les adultes, formaient ainsi leur propre parole en la faisant mûrir dans l'admiration des textes anciens. Dans le panégyrique de Trajan, Pline le Jeune emploie l'expression « studia humanitatis professus », c'est-à-dire « ami des lettres », pour parler de Pline. Mais ne croyez pas que cette éducation se limitait à une approche littéraire, au sens moderne et étroit du mot. Les titres des textes avaient une autre vue, donner une formation générale, ouvrir à toutes les connaissances. Cicéron d'ailleurs s'en plaignait, il trouvait qu'on n'avait la tentation de spécialiser trop vite les jeunes, de réduire la rhétorique à une simple technique. Et Quintilien dira la même chose un siècle plus tard. Mais tel était l'idéal antique. Et les hommes de la Renaissance ont cherché à le ressusciter. Et telles seront les humanités encore, lorsque Guillaume Budé, au XVIe siècle, sous François Ier, les résumera. Il dira « Les humanités, c'est un très vaste cercle, une sorte de ronde et le cœur de toutes les disciplines. » Le cœur, au sens chorus, le C-H-U-R. Nous voici donc à la Renaissance. Ici même en 2001, notre confrère de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui n'en était pas encore son secrétaire perpétuel, Michel Zinc, prononça une communication intitulée « Les humanités et la formation de l'esprit ». Il définissait ainsi cette éducation héritée de l'Antiquité. Je donne toute la citation qui est un peu longue, mais qui est très précise. « Ce que l'on jugeait essentiel d'enseigner à la jeunesse, c'était l'exactitude de la langue, ses ressources expressives, le maniement de la pensée, sa profondeur, son élévation, les leçons de l'histoire et les actions des hommes. Tout cela, on l'apprenait en étudiant minutieusement, souvent même en retenant par cœur, les grandes œuvres littéraires. Cet apprentissage par les lettres, cette formation de l'esprit par les lettres, fondée sur la conviction que l'on devient soi-même et qu'on s'arme pour la vie par une confrontation avec les grands textes du passé, et par une confrontation personnelle en les lisant, en les traduisant, en les comprenant, en les commentant, en les imitant par soi-même, c'est ce qu'on appelle faire ses humanités. Parler d'humanité classique est donc une redondance, puisque les humanités étaient classiques par nature. Les humanistes reprennent l'expression de Pline, studia humanitatis, qui traduisent par étude des lettres. On passe d'humanité à lettres. Alors que le sens littéral serait plutôt étude de la nature humaine. La classe d'humanité est donc une invention des pédagogues jésuites du XVIe siècle, qui s'est généralisée ensuite à tous les collèges, et qui désigne l'année, puis les deux années intermédiaires entre les classes de grammaire et celles de rhétorique. La transition du singulier au pluriel vient donc du vocabulaire scolaire. On faisait une, puis deux années d'humanité, on faisait ses humanités. Au début du XVIIe siècle, on appelle encore humanité au singulier les lettres classiques. Et c'est plus tard, dans le siècle, que le mot est désormais, pour toujours, attesté au pluriel, dans le sens de culture générale de l'esprit. L'avantage du pluriel est aussi d'indiquer que dans ces années d'enseignement secondaire, on acquiert par l'étude des lettres classiques des connaissances beaucoup plus larges et multiples. On aurait tort de croire que les humanités soient une discipline particulière, ni même un ensemble de disciplines. Elles sont plutôt un niveau d'études attesté, une méthode de transmission des connaissances de toute nature. Et déjà, elles sont très larges et rejoignent les futures sciences humaines dont je parlerai ensuite. Histoire, géographie, médecine, botanique, zoologie, minéralogie et évidemment morale. Les langues anciennes sont donc le préalable à cet vaste ensemble de connaissances, car, dit Erasme, je cite, « c'est par elles que sont transmis presque tout ce qui est digne d'être connu ». L'étude des mots doit donc précéder celle des choses. Le savoir vient des lettres et non de l'observation. C'est d'ailleurs pourquoi sciences et lettres sont longtemps restés équivalents. Prenez par exemple en 1684, à la fin du XVIIe siècle, le dictionnaire de Furtière. Si vous cherchez la définition de lettres au pluriel, Furtière dit « se dit aussi des sciences ». Mais si vous cherchez à science, Furtière dit « science, connaissance des choses acquises par une grande lecture ». Dans la tradition humaniste, les humanités étaient donc une propédeutique indispensable avant toute spécialisation. Une éducation générale, détaché de toute préoccupation utilitaire, de toute spécialisation professionnelle. Donnons un exemple. Lorsqu'en 1747, Trudaine fonde la première grande école de l'histoire de France, l'école des Ponts et Chaussées, il ne prévoit qu'une seule épreuve au concours d'entrée, la version latine. Peu importe les connaissances techniques, n'importe qui pourra les apprendre de toute façon, elles viendront tôt ou tard. Mais l'étude des langues anciennes est ce qui rend plus humain, ce qui favorise le discernement pour toute la vie. On retrouve donc là le cœur même des humanités, l'idéal de Caton, de Cicéron et de Quintilien. Est-ce à dire que pendant des siècles, l'éducation a été dans les mains d'incurables passéistes, de nostalgiques irrécupérables de l'Antiquité? Évidemment non. Marc Fumaroli a bien montré, en revisitant de fond en comble la querelle des anciens et des modernes, que nul n'était dupe des réalités historiques des temps antiques. L'intérêt des références grecques et romaines était dans la distance même qu'elles offraient, et non dans le prestige du passé pris pour lui-même. Il s'agit de s'appuyer sur l'autorité des maîtres, de donner des modèles, des exemples, parce qu'il transmet une vérité qui transcende le temps et qu'il permet de s'arracher aux caprices du présent, aux petitesses de l'actualité, aux servitudes de la mode, et d'éviter aussi d'attirer sur soi la colère du pouvoir. Lors de la fondation des collèges au XVIe siècle, il n'existait pas dans l'Occident moderne de corpus de textes modernes, d'auteurs modernes, qui seraient capables de rivaliser avec ceux de l'Antiquité. C'est pourquoi l'on prenait ceux de l'Antiquité. C'était moins un choix qu'une obligation. Même après le grand siècle français, La Fontaine ou Racine n'étaient jamais lus isolément comme des œuvres autonomes, mais toujours avec Ésope ou Euripide. Il faut attendre la seconde moitié du XVIIIe siècle pour voir apparaître dans les classes un corpus de littérature française qu'on pouvait étudier pour lui-même, composé des tragédies de Racine et de Corneille, des œuvres de Bossuet, notamment le discours sur l'histoire universelle, les serments et les oraisons funèbres, les caractères de la Bruyère, les fables de La Fontaine, évidemment, et quelques œuvres pédagogiques, notamment Fénelon, les aventures de Télémaque, le dialogue des morts. Vous savez qu'au XVIIIe siècle, Fénelon a eu une mode formidable. On parlait même de télémacomanie. On ne peut pas dire que ces œuvres soient en rupture avec les humanités, bien au contraire, mais le monopole des auteurs anciens est rompu depuis que le français commence à devenir lui-même une langue classique. Alors c'est l'époque d'ailleurs où se développe aussi la notion de littérature au sens moderne, plus largement, l'autonomie des disciplines, jadis mêlées dans les humanités globalisantes, commence à s'affirmer au siècle des Lumières. C'est à ce stade de réflexion, je vous prie de m'excuser d'avoir été un peu long, mais je voulais qu'on se mette d'accord sur les mots. C'est à ce stade de notre réflexion qu'il faut introduire désormais des sciences humaines. L'expression se trouve dès le XVIe siècle, mais dans un sens très différent du nôtre. D'abord parce que, comme je l'ai dit, sciences et lettres étaient interchangeables. Souvenez-vous du dictionnaire Furtière. D'ailleurs, Guillaume Budet parle de « scientiae humanae » dès la première page de son traité sur l'étude des lettres. L'humaniste considère que les sciences comme les lettres sont un accomplissement de l'être humain et procurent l'humanité des mœurs. En outre, l'adjectif « humain » ne désigne pas l'homme comme objet de ses sciences, mais distingue la source de la connaissance qui est humaine et non divine. C'est dire, l'homme est capable de construire lui-même sa vérité. Ce n'est pas un génitif d'objet, c'est un génitif subjectif, d'origine. De la même manière que l'on distingue alors les literae humaniores, literae divinae ou sacrae, c'est-à-dire les sciences dites humaines, qui sont d'origine profane et non révélée, par opposition aux lettres divines, à la révélation. Autrement dit, dans un premier temps, l'apparition des sciences humaines n'a pas vraiment créé de ligne de démarcation entre des disciplines autonomes, mais entre des sources de la connaissance séculière ou religieuse. Les choses changent lorsque la croyance dans l'origine divine de la science laisse place à une conception contemporaine du savoir comme construction humaine, et aussi lorsque le développement des méthodes scientifiques met fin au monopole des auteurs antiques comme source des connaissances sur l'homme. Mais le mouvement créant les sciences humaines, au sens propre, ne prendra vraiment forme et force qu'au cours du XIXe siècle, et surtout après 1870, lorsque les disciplines universitaires s'affirmeront avec leurs propres méthodes, leurs institutions, leurs revues, et qu'apparaîtront des disciplines nouvelles, telles que la psychologie et la sociologie. Le XIXe siècle, pourtant, n'a cessé de réaffirmer la vocation humaniste de l'enseignement secondaire. Il y voyait un effort pour promouvoir ce qui en l'homme est vraiment humain et digne de la qualité d'homme. C'est vrai jusqu'à la fin du XIXe siècle, que l'on se souvienne de la fameuse lettre de Jules Ferry, qu'on en cite toujours, qui est une lettre d'humaniste, à proprement parler. La France a connu un sursaut classique, et sans doute jamais le latin n'a été autant enseigné qu'au XIXe siècle. Mais le grand débat du temps est de savoir si l'émergence des sciences humaines, diversifiées, autonomes, fondées sur des méthodes scientifiques modernes, doit se traduire par une révolution dans l'enseignement secondaire. C'est une immense réflexion qui a traversé tout le siècle. Réflexion d'où est issu notre système scolaire. Cette réflexion se subdivisait en deux questions, parfois liées, mais souvent débattues séparément. Première question, est-ce que l'esprit scientifique, les sciences humaines au sens où l'entendons aujourd'hui, doit détrôner l'éducation par les lettres? Et deuxième question. L'instruction publique doit-elle offrir à certains jeunes une spécialisation d'autres techniques et professionnelles, plutôt, ou doit-elle inculquer à tous les citoyens la même éducation généraliste, la même culture générale? Il y eut des débats très tôt. En 1837, à la Chambre des députés, le physicien et astronome François Arago, qui est favorable à l'enseignement technique dans le secondaire, s'oppose à Lamartine, qui est hostile à cette réforme. Par parenthèse, heureux temps où le Parlement écoutait s'affronter Lamartine et Arago. Nous en sommes loin. Or, quel est l'argument majeur du député poète en faveur des humanités pour tous? Ce sont, dit-il, les nécessités de la démocratie. Nous sommes alors sous la monarchie de Juillet. L'heure de la démocratie n'a pas encore sonné, mais Lamartine explique en substance que le progrès démocratique consiste non à restreindre l'enseignement des humanités aux élites, mais au contraire, à l'offrir à toutes les classes sociales, afin, dit-il, que se forge cette communauté d'idées générales qui est tout ce qu'il y a de plus libéral et de plus démocratique au monde. Sa péroraison n'a pas tellement vieilli, je la cite, « réservant du temps à cette instruction spéciale, c'est-à-dire les mathématiques, la technique, les sciences. Mais avant tout, ayons une éducation commune, une fraternité intellectuelle au commencement de la vie et conservons l'étude des langues qui renferme les trésors du beau. Sinon, dit-il, vous aurez un peuple d'admirables ouvriers propres à faire des ponts, des chemins de fer, des tissus, des cotons, des draps. Mais est-ce là tout l'homme ? L'homme est-il une machine ? Un outil exclusivement façonné à gagner le plus de salaire, à produire le plus de résultats matériels possibles dans un temps donné ? Non, conclut Lamartine. Il faut favoriser l'exercice de toutes les facultés qui constituent l'homme par une éducation commune, universelle et morale. Les humanités ont donc bénéficié de défenseurs éloquents, y compris dans ce que nous pourrions appeler la gauche. Sans doute ne trouvez-vous pas que Lamartine soit assez à gauche. Alors prenons un autre auteur, qui ne passe pas, lui, pour un conservatiste borné. Pierre Larousse, républicain ardent, anticlérical enflammé. Dans son grand dictionnaire universel, il consacre aux humanités un article où il rappelle ce que les anciens entendaient par humanitas que j'ai évoqué tout à l'heure. Après avoir proclamé que maintenant encore, quoique le cercle de nos connaissances soit considérablement élargi, c'est avec les modèles de l'Antiquité qu'il faut vivre les premières années de la vie intellectuelle, je cite, il conclut Larousse. Les humanités, l'étude de la littérature des siècles passés, constituent la base même de toute culture intellectuelle sérieuse. On ne peut être plus clair. On voit donc que les débats étaient intenses et tournés autour des questions humanité versus sciences humaines ou combinaison de l'une et de l'autre. Le système a perduré tout au cours du 19e siècle et même d'ailleurs dans le second degré, s'est organisé la hiérarchie des classes en fonction de cette problématique. La petite division, qui correspond aux classes de 9e, de 8e et de 7e, où on apprenait la langue française, permettait de passer ensuite dans la division de grammaire, où on apprenait le latin en 6e, en 5e, puis on commençait le grec en 4e, puis ensuite venait la division des humanités, entre la 3e et la 2e, classe d'humanité proprement dite, et la 1ère, classe de rhétorique. Ensuite, on pouvait passer en classe de division supérieure, soit pour la philosophie, soit pour les mathématiques élémentaires, éventuellement pour les mathématiques spéciales. Le système n'a pas tellement changé, pratiquement jusqu'en 1960, à peu près 68. Le système éducatif n'évolua que lentement, jusqu'aux réformes plus radicales qui viendront plus tard. J'ai ici écrit un paragraphe qui en montre un exemple à travers l'histoire des agrégations que je saute, mais que vous pourrez retrouver dans mon argumentaire. Or, l'évolution des agrégations est très importante pour notre sujet parce qu'on se rend compte qu'à un moment, Napoléon se souhaite démanteler l'unité de l'agrégation littéraire, de l'agrégation des humanités. Il restaure trois agrégations. L'agrégation de grammaire, qui correspond au début du collège, l'agrégation de lettres supérieures, pour le français, le latin, le grec, l'histoire, la morale et la logique, et l'agrégation des sciences, pour les mathématiques et la physique. Invention absolue pour l'époque. La tendance à la spécialisation des professeurs agrégés s'accentue. Très large agrégation de lettres supérieures, qui est subdivisée en 1825 par la création de philosophie. en 1831 par l'agrégation d'histoire et en 1838 par l'agrégation de géographie. La division des humanités a donc commencé. Une sorte de démantèlement, en quelque sorte, des humanités. Mais ce démantèlement n'a pas eu d'effet immédiat, puisque seuls les grands lycées avaient des professeurs agrégés, chargés, par exemple, de donner un cours magistral d'histoire. Et par ailleurs, la clé de voûte du système restait le professeur de rhétorique qui enseignait le français, le latin, le grec, la morale, l'histoire. Pensez que le même professeur passait 11 heures par semaine dans chaque classe et qu'il incarnait par lui-même le faisceau des connaissances à travers les humanités. Les réformes s'accélèrent à partir de 1864, date de la création par Victor Duruy de l'enseignement spécial, et dès lors, les humanités cessent d'être la culture commune de tous les élèves. Une scène intéressante, en 1880, Jules Ferry préside la remise des prix aux lauréats du concours général. Et il annonce sur un ton assez pathétique, assez nostalgique, que c'est la dernière fois qu'il s'adresse à eux en latin. Il fait part de sa décision de supprimer la composition latine des classes de rhétorique et des épreuves du baccalauréat au profit de la seule composition française. Vous n'imaginez pas la littérature qui a provoqué cette déclaration qui aujourd'hui paraît bien loin de nous. En 1890, à l'écrit du baccalauréat, l'épreuve de composition française cesse d'être un discours pour devenir une dissertation. L'élève ne sera plus un orateur fictif, ni un sophiste, mais un critique en herbe. C'est le glas de la rhétorique, à laquelle on reproche d'être devenu un enseignement élitiste, clérosé. Gustave Lançon dit « ce n'est plus un art de penser, mais un art de parler sans bien penser ». Lançon. À l'oral du bac, les questions elles-mêmes de rhétorique sont remplacées par de l'histoire littéraire. La révolution est accomplie. Les auteurs anciens ne sont plus étudiés pour ce qu'ils apportaient à l'humanitas de l'élève, mais on entend qu'ils prennent place dans un ensemble plus vaste qu'est l'histoire littéraire. L'approche historique, imprégnée des sciences humaines, a vaincu les humanités en brisant la valeur presse absolue que l'on prêtait depuis si longtemps aux belles-lettres. Enfin, après la grande réforme de 1902, l'élève doit choisir entre un cursus classique et un cursus moderne, humanité ou sciences humaines. Dans le premier survivent les humanités classiques, débarrassées de la rhétorique et replantées dans le terreau des sciences humaines. Dans le second, il propose un programme fondé sur la démonstration scientifique, les mathématiques et des sciences annexes, géographie par exemple. En réalité, c'est tout l'enseignement secondaire qui est désormais refondé sur l'esprit scientifique, nouveau mode de formation de l'esprit, proclamé désormais le seul capable d'améliorer la jeunesse d'une nation moderne et de lui redonner l'esprit de précision, de méthode et de discipline qu'on attribue naguère à la littérature antique. L'éducation scientifique a remplacé les humanités comme socle intellectuel et moral. En 1906, les ultimes compositions latines de l'agrégation de lettres sont terminés, le jury, qui était déjà désespéré par le niveau, enfonce d'une phrase le dernier clou du cercueil, je cite, « La dissertation latine est morte sans honneur ». Fin de citation. Alors les sciences humaines, dans ce contexte, sont évidemment une invention récente. Leur champ épistémologique n'a pas été prescrit à l'avance, c'est ce que dit Michel Foucault dans « Les mots et les choses ». Et quant aux sciences sociales, qu'on va souvent confondre avec les sciences humaines, elles s'imposaient parce qu'il fallait accompagner les essors de la démocratie. Le terme de sciences morales et politiques s'est imposé avec la Révolution française, qui avait créé la classe des sciences morales et politiques au sein de l'Institut, en 1795. Et on se souvient qu'après l'interruption de 1803, c'est Guizot qui les relança en fondant l'Académie des sciences morales et politiques au sein de l'Institut, avec l'objectif affiché de reprendre l'œuvre interrompue plus de 30 ans plus tôt. Y intégrer les domaines intellectuels de la philosophie alla de soi, c'est-à-dire la métaphysique, la logique, la philosophie politique et morale. Mais la place du droit, de l'histoire, de l'économie politique, de la géographie fut beaucoup plus débattue. Ainsi, notre académie, sous l'influence de Guizot et de Victor Cousin, le chef de l'école éclectique, privilégia une science morale qui se donne pour mission d'œuvrer au progrès général et d'en contrôler les débordements anomiques et amoraux. Déjà en 1795, lorsqu'ils avaient fondé l'Institut, je crois que Jean Tullard nous l'avait évoqué, les Thermidoriens avaient fait publier aux frais de la République le célèbre texte de Condorcet, l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Comme si les sciences humaines, à leurs yeux, se plaçaient d'emblée sous le signe d'une foi dans le progrès, via une démocratie raisonnable, éclairée et instruite. Alexis de Tocqueville, qui fut membre de notre Académie des sciences morales et politiques à partir de 1838, pensait aussi que notre mission était de faire progresser les capacités intellectuelles et morales d'une nation, dans une période où partout en France, on débattait des libertés religieuses, du statut des églises, de la liberté de la presse, de l'élargissement du droit de vote, du système pénal, du travail des enfants, de l'école obligatoire. Guizot et Tocqueville voulaient ainsi s'opposer aux idées radicales et aux errements révolutionnaires, en améliorant les lois et les institutions, en inspirant à tous le sentiment du devoir, de l'ordre, de l'autorité, bref. Il s'agissait de réconcilier la France de l'Ancien Régime et celle de la Révolution. Les sciences humaines prétendaient donc remettre en phase l'évolution des institutions politiques avec le progrès scientifique et matériel, pour le dire plus simplement, pour faire coïncider le temps de la politique avec celui de la science. On voit donc le lien originel entre la théorie politique et les sciences humaines. Ce qui a permis d'ailleurs à des théoriciens modernes de voir le marxisme comme la première des sciences humaines, voire comme la matrice des autres. Je retrouve un article de Marc Fumaroli, publié dans Le Monde du 21 novembre 2000, et qui, se fondant sur cette paternité marxiste, analysait ce qu'il estimait être la perte de crédibilité des sciences humaines. Je lis « Le démenti infligé au marxisme a ébranlé directement la crédibilité de toutes les sciences humaines, apparu dans son sillage ou refondu à son exemple. Ni le structuralisme, fondé sur une linguistique qui a révélé assez vite ses limites, ni l'histoire des mentalités impersonnelles, aujourd'hui désarçonnées et divisées contre elles-mêmes, ni l'anthropologie, émiettée en spécialistes qui n'osent plus se livrer à de vastes généralisations, et pour ne pas parler de la sociologie, n'ont été épargnés par le soupçon qui ronge le concept même de science, appliqué au radical du sujet humain concret. » Je ne m'attarderai pas sur le XXe siècle dont chacun connaît les débats intellectuels, l'émergence des sciences sociales conquérantes et concurrentes des sciences humaines, le poids du marxisme et du structuralisme sur les sciences humaines et la littérature, malgré les efforts d'un Raymond Aron ou d'un Georges Tenner et de bien d'autres. Je préfère terminer par un état des lieux et par quelques réflexions. D'abord, les humanités comme mode de formation de l'esprit, telles qu'on les a pratiquées jusqu'à la fin du XIXe siècle, ces humanités sont mortes et enterrées. L'enseignement du latin et du grec n'a certes pas disparu, mais il faut se battre pour le maintenir, voire pour l'étendre. Il est marginalisé, il ne ressemble à rien de ce que nous avons connu. Nous pouvons continuer d'utiliser le terme d'humanité pour désigner l'étude des langues et de la littérature grecque ou romaine, mais ces humanités-là sont passées du statut de formation généraliste, englobant toutes les disciplines, à celui d'une discipline parmi d'autres et même d'une simple fraction des études de lettres. Elles ont leur spécialisation de très haut niveau, qui bénéficient d'ailleurs désormais des apports précieux des sciences humaines et qui se réclament d'être formées par les sciences humaines. Dans ce contexte, que penser des avatars actuels du mot « humanité » et de ses emplois récents, indépendamment de toute référence aux langues anciennes? Consultant les sites internet des universités françaises, vous constaterez que toutes ont un UFR, unité de formation et de recherche, intitulé « humanité » au pluriel. Mais cela n'est pas général, on ne voit rien de tel à la Sorbonne, mais surtout, les contours de ces humanités diffèrent d'une université à l'autre. À Lille 3, par exemple, elles englobent les arts, les langues, les lettres anciennes et vivantes, la philosophie, mais pas l'histoire. À Nanterre, par Ouest, existe une licence humanité qui offre à fois la littérature, les langues vivantes et anciennes, la philosophie et l'histoire. Et cette licence est présentée comme une formation intellectuelle préalable à toute spécialisation de l'étudiant. Les humanités donc réapparaissent comme une sorte de propédeutique au niveau de la licence. Mais dans l'ensemble, l'emploi du mot « humanité » s'apparente plutôt à un anglicisme qui a l'avantage de la lisibilité pour les étudiants étrangers qui viennent en France. Et ces initiatives témoignent surtout de l'échec des sciences humaines et des sciences sociales à annexer les lettres, les langues ou la philosophie. Elle révèle enfin le prestige nouveau du mot « humanité » qui passait naguère pour archaïque, vieillot, réactionnaire, bourgeois. Mais la référence à l'homme reste équivoque. Tantôt, on ne privilégie dans l'humain qu'un aspect isolé, le mental, la langue, la sexualité. Tantôt, on examine au contraire l'individu inséré dans des structures collectives sur lesquelles il n'a guère prise, l'essence sociale, l'aliénation, le travail, l'école, l'histoire en action. Tantôt, enfin, on s'intéresse aux œuvres qui manifestent l'humain avec un grand H, si je puis dire, l'art, l'épistémologie, la littérature. À cela s'ajoute l'empire des sciences médicales et neurobiologiques, qui interrogent désormais les limites de l'humanité et donc veulent parler de l'humain. Bref, les universités réunissent sous un titre englobant d'humanité et sciences humaines des disciplines disparates, comme si l'objet devenu flou ne pouvait être plus cerné que par une approche quasi-cubiste. Une preuve éclatante de ce prestige est donnée par le concept nouveau d'humanité numérique. Là encore, il s'agit d'un emprunt à l'anglais. L'intérêt de la formule est de réfléchir sur une réalité d'aujourd'hui. L'accès à l'information, quelle que soit la discipline étudiée, se fait par le numérique, et certains y voient le signe de l'émergence, grâce au réseau numérique, d'une nouvelle république des lettres, ou plutôt, je le crains, d'une Republic of Letters. Cela engendra-t-il une nouvelle renaissance? Peut-être. Malgré tout, nous voyons que le mot d'humanité a été tiré bien loin de la notion que j'évoquais au départ. Et s'il est vrai que la Renaissance a grandement profité des nouvelles techniques de diffusion du savoir, elle n'a jamais confondu Gutenberg et Cicéron, l'imprimerie et l'humanitas, le moyen et la fin. Finalement, les humanités ont-elles été remplacées dans l'enseignement? Sur quels enseignements pouvons-nous compter pour atteindre les objectifs que nous nous sommes donnés? Conçu dès l'Antiquité comme un cheminement vers l'humain, pensé à la Renaissance comme une propédeutique indispensable à toute spécialisation ultérieure, repensé au XIXe siècle comme un lien culturel entre une génération et l'élément potentiel d'unité de la société démocratique, les humanités avaient aussi d'autres vertus. Elles donnaient la faculté d'exprimer sa pensée par la maîtrise de l'expression verbale et écrite. Elles avaient une valeur européenne, voire mondiale, et non pas seulement nationale. Elles contenaient une éducation morale. Elles apprenaient à prendre ses distances vis-à-vis du monde présent et donc à résister aux modes comme aux idéologies. Elles formaient au sens critique et au discernement, c'est-à-dire tout ce à quoi une vraie démocratie aspire aujourd'hui comme hier. Les sciences peuvent-elles offrir tout cela? On a cru les mathématiques plus démocratiques que les lettres. On a voulu donner à chaque génération une éducation scientifique fondée sur l'état le plus achevé des connaissances. Fort bien. Mais qu'on se souvienne des mathématiques modernes, et on verra qu'on est loin du compte, malgré tous les plans numériques et informatiques successifs. Les sciences humaines, si ce n'est pas les sciences, peuvent-elles offrir tout cela? Elles ont acquis une juste place dans l'enseignement secondaire, mais elles ne peuvent pas remplacer les humanités. Observer l'homme est certes une activité nourrissante et formatrice, mais cela ne suffit ni à le former, ni à le nourrir tout à fait, ni surtout à le rendre heureux. De ce point de vue, l'œuvre littéraire et le sens du beau restent irremplaçables. Les lettres modernes peuvent-elles offrir tout ça? Ce qu'on a parfois appelé les humanités modernes. Elles apportent beaucoup de ce qui faisait l'intérêt des humanités classiques, une culture générale, nationale, intégratrice, démocratique, intergénérationnelle. En outre, la langue française est depuis longtemps une langue classique, qui offre aussi cette distance avec le présent, jadis recherchée dans la fréquentation des anciens. J'en déduis que le cours de français est dans l'enseignement secondaire actuel, ce qui comble le moins mal le vide laissé par les humanités. C'est là sans doute que peut se réinvestir une partie de l'héritage des défunts de l'humanité. Mais notre société ne pourra espérer en réaliser toute la promesse que si elle peut d'abord faire découvrir aux jeunes un trésor perdu, le goût de la lecture comme expérience, comme nourriture de l'esprit et comme apprentissage de la liberté. Mes chers confrères, dans sa communication présentée ici même en 2001 que j'évoquais tout à l'heure, Michel Zinc expliquait l'essence même des humanités par la citation. La citation, hommage de l'admiration, première vertu d'une éducation bien comprise, de la beauté qui remplit l'esprit, des vers que l'on sait et que l'on se récite. En lisant ce passage du texte de Michel Zinc, j'ai d'abord pensé, vous me pardonnerez cette plaisanterie, que si Astérix n'avait pas été inventé en 1959, mais 10 ans plus tard, après la suppression du latin en 6e et 5e, n'aurions pas connu le personnage pittoresque du vieux pirate qui parle en citation latine, tout un symbole que cet ultime rescapé des humanités condamné au perpétuel naufrage. Aujourd'hui, suprême paradoxe, le véritable irréductible qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, c'est peut-être lui. Je citerai, pour finir, mon cher Ovide, dans une lettre au roi de Thrace, Cotys III, une lettre qui a tout juste 2000 ans. Elle a été écrite en l'an 14. Il loue l'esprit pacifique de son roi, ami, qui est un homme puissant, et il ajoute ceci: il y a chez toi aussi l'étude assidue des arts libéraux qui adoucit les mœurs et qui réprime la rudesse. Deux millénaires plus tard, rien ne paraît actuel, autant actuel que cela, tant il est vrai que l'humanitas antique me paraît un code de survie dans un temps brutal et sauvage. Car être humain, être une personne humaine, c'est à la fois toucher au plus universel et au plus singulier. Et on en attendra toujours des humanités, surtout dans le contexte d'une interdépendance mondialisée, qu'elle tempère l'illimité du scientifique et l'uniformisation du collectif. Je vous remercie.
L'humanus dont vous avez parlé, c'est vous.
Ça me rajeunit pas.
Je vous remercie et vous félicite de ce monument, de cette conférence magistrale, qu'en dépit de vos lourdes charges, vous avez bien voulu préparer, vous nous en avez fait profiter. Ça a été un grand moment de cette année académique et je vous renouvelle donc très chaleureusement mes félicitations et mes compliments. Un certain nombre de nos confrères souhaitaient intervenir. Je donne donc la parole pour à M. Jean Bachelet.
Merci, M. le Président. M. le Perpétuel, je voudrais vous soumettre une remarque qui est peut-être anecdotique et probablement hors sujet. Vous avez parlé de Quintilien. On trouve dans Quintilien la construction d'un point de vue qui pourrait surplomber tout ce que vous avez dit en le rapportant à son lieu logique et rationnel. Je pense à ce qu'il appelle, ou à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, les étapes de toute formation intellectuelle, et qui a, je crois, validité universelle, vous savez ça mieux que moi, explicatio, imitatio, aemulatio. Explicatio, mettre au contact des acquis provisoires, de quoi ? Bien, ça peut être des chefs-d'œuvre de la littérature, ça peut être les théorèmes mathématiques, ça peut être la mécanique quantique, peu importe. Ça peut être tout acquis de l'ingéniosité humaine. Deuxième étape, l'imitatio, essayer de faire aussi bien, en comprenant comment on a été capable de parvenir à ce résultat et en s'efforçant de reparcourir chemin qui y a conduit. Et enfin, aemulatio, c'est acquérir l'autonomie, se mettre à penser par soi-même, se mettre à, ce que vous avez dit, à être un être humain en mettant à profit ses dotations personnelles au contact d'un milieu et ainsi de suite. Autrement dit, que pensez-vous, si vous voulez, de ce point de vue de Quintilien que j'ai toujours trouvé d'une profondeur insondable. Alors, je ne sais pas s'il l'a inventé, il doit y avoir des précédents, mais c'est là que je l'ai lu il y a fort longtemps. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire Perpétuel, il y a quelques années, Jean Foyer m'a fait découvrir le début de l'agrégation au XVIIIe siècle, quand les jésuites ont été chassés de France. En 1764, je crois, ils ont été chassés, et on a créé une agrégation de philosophie, une agrégation de lettres et une agrégation de grammaire, qui a dû, je pense, durer jusqu'à peut-être 1795, je ne sais pas. Et dans cette agrégation de philosophie, et ce qui illustre tout à fait la notion d'humanitas dont vous parliez, les coefficients des sciences étaient les mêmes que les coefficients de la métaphysique, de la morale, etc. Et on a même encore le sujet qui a été posé pour le premier concours, c'était sur la gravitation universelle. La première, il y avait 3 copies, comme à l'écrit, maintenant, et le sujet qui avait été posé. Alors, en revanche, quand Cournot a été inspecteur général de l'enseignement public, il parle de la seconde agrégation, celle qui a été recréée en 1824, nous avez-vous dit. Et là, il dit que les élèves, que les cours qu'il a entendus étaient dans l'ensemble très médiocres. Alors, je voulais savoir pourquoi, par exemple, Durkheim ne parle pas du tout de cette première agrégation qui a duré 30 ans. Et si les sciences avaient cette importance en philosophie, c'est que tout simplement, chez les jésuites, c'était le professeur de mathématiques qui était chargé de la métaphysique. Donc il y avait les mêmes coefficients pour les deux.
Pour répondre après, mais comme en Kant, c'est le prof de philosophie qui fait l'épreuve de logique.
Oui, oui.
Merci. Monsieur Dorcival.
Merci, Monsieur le Président. Pardon. Et d'abord, un très, très grand merci. Et je me joins aux félicitations du Président pour ce magnifique exposé, cher secrétaire perpétuel. Au fond, ma question porte sur deux ou trois petits manques d'explications que j'ai ressentis. D'abord, j'aimerais savoir ce que disait ou ce que répondait Arago à Lamartine. Ensuite, j'ai bien retenu que nous avons naturellement une période de rupture très très récente qui est celle des années 68, très bien, mais il y en a eu une autre que j'ai découverte grâce à vous, c'est donc celle des années 1890-1906. Et c'est là où j'aimerais que vous puissiez nous donner une explication. On sait bien aujourd'hui que si l'on a transformé de manière fondamentale les enseignements, c'est pour permettre qu'il y ait plus de bacheliers, que ces bacheliers puissent accéder plus facilement à l'enseignement supérieur et que l'on atteigne ainsi 80% d'une classe d'âge admise dans nos facultés et universités. Mais à l'époque, le baccalauréat est réservé, donc à l'époque, je veux dire 1890-1906, à une petite élite, c'est-à-dire que nous sommes dans la dizaine de milliers de bacheliers, ce qui s'est poursuivi pendant très longtemps. Donc, quel était le but de cette longue rupture ? Est-ce que c'était seulement la modernisation, comme on dit ? Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci pour ce bel exposé. J'ai juste deux questions. Une très, très courte pour commencer. Quel est le lien? Est-ce qu'il y a une identification? Quel est le lien avec ce que les anglo-saxons appellent les arts libéraux? Et puis, deuxièmement, est-ce qu'il y a, je pense qu'il y a véritablement, mais dans quel sens, un lien entre les humanités et puis le concept d'université tel qu'il est décrit par Newman. Il y a eu notamment un très bon livre d'Hervé Pasqua là-dessus récemment, enfin, beaucoup de choses. Donc, l'université en tant qu'une affaire purement occidentale, quoi qu'on dise d'ailleurs, parce qu'on veut essayer de prétendre que ça se trouve partout, c'est pas vrai. C'est-à-dire non pas une école qui transmet un savoir, mais une institution qui déploie l'humanitas en développant l'esprit critique, les liens entre les différentes disciplines, etc. Ou si tu préfères, une expression de l'éducation d'initiative qui commence au-dessus de l'éducation d'initiation qui a toujours existé. Est-ce qu'il y a un lien entre ça ?
Merci. Monsieur Pébreau.
Merci, Monsieur le Président. Je m'associe bien sûr aux remerciements de mes confrères. J'ai beaucoup appris au cours de cette présentation. Je voulais demander à notre secrétaire perpétuel si la recherche d'humanitas ou des humanités avait fait l'objet, ou plus exactement, avait été intégré au travail qui a conduit à la définition d'un socle commun de connaissances quand il était ministre de l'Éducation nationale et qu'il y a eu de grands états généraux à ce sujet en France. L'idée initiale était un socle commun de connaissances et de compétences. Le gouvernement actuel vient d'y ajouter « et de culture ». Est-ce que cet ajout est de nature à progresser en direction des humanités?
Merci. Monsieur Brague.
Merci, Monsieur le Président. J'ai trois questions de dimensions différentes. Pour la première, on voudra bien excuser que je revienne à mes obsessions. Je me demande si la question des humanités ne suppose pas d'une certaine manière, le problème résolu, à savoir le problème, la réponse positive donnée à la question de la légitimité de l'homme lui-même, puisque c'est une question qui est posée actuellement et à laquelle tout le monde ne donne pas une réponse positive. On entend dire des choses très vilaines, pas toujours fausses d'ailleurs, sur l'homme. Qu'il faudrait soit supprimer carrément, soit remplacer par quelque chose de mieux, on ne sait pas trop quoi encore. Deuxième question, qui d'ailleurs est liée à la première, vous avez parlé des sciences humaines moins exhaustivement que des humanités. Est-ce que on peut tenir les deux en même temps? Tenir les deux ensemble, et je pense à ce qui se disait beaucoup dans les années 60, en particulier par Lévi-Strauss, qui a dit en une formule que je ne connais pas par cœur, que les sciences humaines n'avaient pas pour but de construire l'homme, enfin de l'édifier, mais de le détruire au contraire, en le ramenant à des régularités scientifiques tenant aux sciences de la nature. Et donc, si les sciences humaines ne seraient pas une sorte de cheval de Troie à l'intérieur même des humanités. Puis ma troisième question, si les humanités ont pour but l'humanité dans toute son ampleur, quel sens peut conserver l'idée d'un canon? Un canon, si j'ose dire, à un calibre déterminé qui ne coïncide pas nécessairement avec toute la largeur de l'expérience humaine. Alors comment tenir les deux bouts en même temps? Merci.
Monsieur Casanova.
Merci, Monsieur le Président. Je me joins bien sûr aux compliments qui ont été adressés à notre secrétaire perpétuel. J'aurais deux questions à lui poser. La première est en partant de deux auteurs que j'ai pratiqués. La seconde concernant l'évolution des systèmes d'éducation dans le monde, du point de vue des humanités. Alain, dans ses propos sur l'éducation, cite favorablement la formule de Napoléon. L'éducation, c'est le latin et les mathématiques. Et Alain dit, c'est très simple, le latin, c'est les humanités, et les mathématiques, c'est les sciences. Et l'éducation se résume à ça. Et d'une certaine façon, ce que dit Alain correspond à l'ancien système du baccalauréat français. Pratiquement jusqu'à la guerre, et même un peu au-delà, les bons élèves passaient le baccalauréat philosophie et le baccalauréat mathélème. De moins en moins ensuite. Et Aron, qui était sur la même position qu'Alain, quand il a discuté des problèmes de l'enseignement des sciences sociales dans le supérieur, s'est opposé et a été suivi jusqu'à 1981 à ce que le concours d'entrée à l'école normale supérieure soit modifié et qu'on maintienne le latin, le grec pour le concours lettres, qu'on maintienne le latin, le grec philosophie histoire, il avait comme idée fondamentale, c'est que les humanités qu'il définissait à l'anglaise, ou à l'américaine, comme on voudra, c'est-à-dire les arts, les lettres, la philosophie et l'histoire, ce que l'humanité, l'expression de l'humanité, doivent être distincts des sciences sociales qui viennent après, qui s'appuient et sur les sciences et sur les humanités. Mais ça donnait, si vous voulez, ces deux pensées, au fond, distinguer assez clairement le système d'éducation. Alors j'en viens à ma deuxième, je voulais vous demander ce que vous en pensez, j'en viens à ma deuxième question, c'est que si on regarde les deux grands systèmes d'éducation que je connais ou que nous connaissons, la France et les États-Unis, curieusement, si on prend le baccalauréat, il spécialise de plus en plus. C'est-à-dire qu'au lieu de donner à chaque lycéen une formation dans les deux ou dans les trois blocs, humanité, sciences sociales ou humanité et sciences, si on veut réduire à deux, pratiquement aujourd'hui, je le vois à Sciences Po, nous recrutons des bacheliers des trois catégories. Un bachelier lettres est incapable d'expliquer la théorie de l'évolution de Darwin ou des éléments de base de la physique contemporaine, et un bachelier dit de sciences économiques et sociales est incapable de citer un auteur classique. Le bac français spécialise très étrangement, et l'enseignement supérieur qui vient après spécialise encore plus. Et donc nous sommes dans un étrange système où la spécialisation commence très tôt. En revanche, si on prend le collège américain, en réforme constante depuis une cinquantaine d'années, les liberal arts colleges, qui sont en gros l'élite des collèges américains, avant les études approfondies, eux imposent la diversification. Harvard a adopté ce qu'ils appellent le core system, c'est-à-dire que tout élève du collège doit passer des grades dans les sciences expérimentales, en mathématiques, en humanité et en sciences sociales. Et donc, en gros, le système américain, pendant une durée de 4 ans, réduit autant qu'il est possible la spécialisation. Et les médecins aux États-Unis sont recrutés après 4 années de collège, où ils doivent être major, c'est-à-dire prendre en 3e et 4e année, prendre plutôt des sciences expérimentales et de la biologie, mais ils ont dû nécessairement faire de la philosophie, des langues étrangères, de l'art, etc. Qu'est-ce que vous pensez, vous qui avez été ministre de l'Éducation, et après votre réflexion sur les humanités, qu'est-ce que vous pensez de cette divergence entre la spécialisation très jeune et accentuée en France et les tentatives de lutter contre la spécialisation, tentatives de plus en plus difficiles, parce que je crois qu'il serait très difficile aujourd'hui, il est plus difficile aujourd'hui d'être bachelier dans les trois ou dans les deux que ce n'était autrefois, mais enfin, quand même, dans un cas, on essaye de lutter contre la spécialisation dans la formation, et dans l'autre cas, on libère la spécialisation.
Merci. Monsieur Ménard.
Merci, monsieur le Président. Alors, je ne devrais pas intervenir, parce que j'ai surtout à dire mon admiration devant ce que nous venons d'entendre, mais en écoutant ce que nous avons entendu, je me suis dit qu'on pouvait peut-être pousser dans quelques directions qui étaient suggérées. Alors, il y a une direction qui n'a pas été vraiment prise, et je trouve que c'est heureux qu'elle ait été négligée. C'est la distinction entre l'homme réel et l'homme idéal. Ça pourrait servir. Ce ne serait pas inutile dans certains cas, et ça pourrait être un moyen préparatoire de préparer certaines questions. Mais j'opposerais personnellement davantage les choses et les hommes, les choses et l'homme. L'homme et les choses. Je dirais que d'abord, les sciences s'intéressent aux choses, essentiellement, les humanités, par définition, s'intéressent à l'homme. Oui, d'une certaine façon, d'ailleurs, et qui est d'autant plus intéressante qu'elle est plus différente de la manière scientifique. Parce que les sciences de l'homme, lorsqu'elles étudient l'homme, elles étudient son cerveau, elles étudient l'inconscient. C'est-à-dire que ça n'a aucun rapport avec l'homme de la tradition humaniste. Et nous avons vraiment besoin de la tradition humaniste. Je crois donc que, et je dirais que l'un des défauts de nos gouvernants, ou de nous tous, puisque nous sommes le peuple, nous tous, c'est de faire beaucoup plus attention aux choses qu'aux hommes. Lorsqu'on parle de réforme de l'enseignement, qu'est-ce qu'on imagine? D'abord, des changements de programme. Des changements de mode de travail, c'est-à-dire des choses. Et on ne s'interroge pas sur le fond de l'enseignement, disons en gros la culture, ou la culture dans un des sens que l'on peut donner au mot. Et c'est ce malheur qui fait que c'est vous me pardonnerez cette incongruité, c'est ce qui fait que beaucoup de classes de notre enseignement, même secondaire actuel, ne sont que des garderies. Parce que les parents travaillent, alors il faut s'occuper de leurs enfants. Mais alors, il y a un dernier mot que je crois intéressant de considérer ici, c'est le mot démocratisation. Et quand on parle de démocratisation de l'enseignement, on commet des erreurs comparables. Parce que ce que l'on veut, c'est faire en sorte que les enfants du peuple apprennent ce qu'apprenaient les enfants des classes sociales élevées. Mais les enfants du peuple peuvent très bien être des hommes de premier ordre sans avoir à imiter les hommes d'autres classes sociales. Et du moins, ils ne sont pas préparés à ce que font les autres classes sociales. Donc, il faut tenir compte de cette différence. Et le résultat est assez... C'est simplement que on parle d'échec scolaire. L'échec scolaire vient d'une sorte d'inadéquation de ce qui est enseigné et de la personne à laquelle il est adressé. Et nous avons la hantise de l'égalité. Mais la hantise de l'égalité, c'est ce qu'il y a de plus hostile à la démocratie. Merci.
Merci. Monsieur Soutou.
Monsieur le Président, merci. Je voudrais ajouter mes remerciements admiratifs après cette synthèse qui, de toute évidence, nous donne beaucoup à penser. Je voudrais revenir sur un point qui a été un petit peu évoqué, mais que je voudrais peut-être préciser pour poser une question à l'orateur. La réforme de 1902, si je me souviens bien, elle avait un argumentaire, en quelque sorte officiel ou obvie en tout cas, qui était présenté comme la nécessité de mettre, au fond c'est actuel, de mettre l'enseignement des bacheliers au niveau des nécessités de ce que nous appelons aujourd'hui la première mondialisation. Et de fait, c'est à partir de la réforme du cursus en 1902, un accent beaucoup plus grand qu'avant mis sur les langues vivantes, que l'on voit, que ça correspond aussi à une phase de développement économique, les deux vont ensemble, que l'on voit de plus en plus d'ingénieurs, de cadres français ou d'ouvriers français aussi, ils accompagnent, essaimer dans le monde entier, n'est-ce pas? On se rend pas compte aujourd'hui que l'exportation, en quelque sorte, de nos grandes entreprises est extrêmement vivante dans une partie entière du monde dès avant et après 1914. Alors, l'argument à l'époque, c'est d'imiter un peu ou de reproduire le modèle allemand des Real, je ne sais plus s'ils disaient à l'époque Real Schulen ou Real Gymnasium, enfin un gymnase qui ne fut pas, l'enseignement secondaire qui ne fut pas consacré uniquement aux humanités classique. En même temps, derrière cet argumentaire qui est tout à fait évident, qui correspond d'ailleurs à la réforme complète du service consulaire du Quai d'Orsay pour qu'il s'intéresse aux problèmes d'exportation, tout ça c'est le même Parlement qui a pris toutes ces décisions en quelques mois. À côté de ça, on se demande quand même s'il n'y a pas ce que j'appellerais un agenda caché, pour utiliser un anglicisme, beaucoup plus idéologique. C'est-à-dire non seulement diminuer peut-être le poids relatif du latin, même s'il subsiste, parce que le latin, c'est la langue de l'Église catholique. Bon. Mais plus profondément, parce que l'argument me semble pas aller quand même très loin pour les gens sérieux, plus profondément, faire passer l'équilibre, justement, de ce que vous avez dit, des humanités aux sciences sociales, c'est en effet à la même époque, à peu près, tout ça me paraît quand même dans le temps très cohérent, que la sociologie devient à la Sorbonne la principale discipline, mettant l'histoire sur le bas-côté, n'est-ce pas? Bon, les historiens, pour être tout à fait précis, sur le bas-côté de l'histoire en marche. Et ce soupçon que j'ai est conforté par une séance du Parlement en 1922, dans une chambre donc de Bleu Horizon, d'Union Sacrée après la guerre, où la question est reposée pour un pas supplémentaire de réforme contre le latin, etc. Et il y a une véritable Union Sacrée, j'emploie le terme à dessein, de tous les députés, enfin qui prennent la parole en tout cas, qu'ils soient de droite ou de gauche, pour dire non, on ne touche pas au latin. Donc pour maintenir ce qui était quand même un équilibre, en 1902, puisque la réforme allait moins loin que certains enseignements secondaires d'Europe centrale, en maintenant, même pour les élèves qui suivaient le bac le plus, disons, moderne, un très fort fond d'humanité classique. Et quand on étudie cette séance ou ces séances de 1922, on a vraiment l'impression qu'il y a, au-delà des arguments pédagogiques ou même d'utilité sociale, enfin, présentés à l'époque, de véritables batailles idéologiques qu'avec le recul et après 1968, bien entendu, comme vous l'avez rappelé, nous comprenons peut-être encore mieux. Je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec moi sur cette hypothèse ou si elle est tirée par les cheveux. Je vous remercie.
Merci, Monsieur le Président. Oui, je voudrais revenir sur ce que Monsieur Darcos nous a dit tout à fait au début, de l'humanité définie par rapport à l'inhumanité, par rapport à l'inhumain, ce qui est au fond assez logique, puisqu'on pourrait dire aussi que l'inhumain est le propre de l'homme. Donc il n'est pas absurde de commencer par là. Et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'interdiction des traitements inhumains. Mais alors, est-ce qu'on ne peut pas se demander si aujourd'hui, un certain nombre de débats, aussi bien dans le domaine de l'environnement que des biotechnologies, poseraient la question un peu différemment de l'humain par rapport au non-humain ? Est-ce que l'humain est complètement séparé du non-humain, c'est-à-dire de la nature et des autres vivants ? Non humain, est-ce qu'il y a une relation complètement séparée, est-ce qu'il y a une relation d'opposition, ce que suggérait Rémy Braque dans son intervention par rapport à certains courants auxquels il n'adhère pas d'ailleurs, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui irait vers une sorte de relation d'interdépendance entre l'humain et le non humain? Mais est-ce qu'il n'y a pas dans cette interrogation une sorte d'enrichissement ou au contraire d'appauvrissement de l'humanité elle-même.
Merci. Monsieur Vacheron.
Merci, Monsieur le Président. J'ai moi aussi, Monsieur le Secrétaire perpétuel, beaucoup admiré votre exposé et je voudrais faire une remarque sur l'état actuel de la médecine. Il y a quelques décennies, les étudiants en médecine, les futurs étudiants en médecine, choisissaient préférentiellement la section A pour leurs études secondaires. Et je pense que cette formation était l'un des fondements de l'humanisme médical. Elle a progressivement cédé la place à une formation scientifique prédominante, de plus en plus pure et dure, et maintenant pratiquement exclusive. Et cette mutation a transformé la relation patient-soignant, les médecins devenant de plus en plus des techniciens, des ingénieurs en machinerie humaine. Merci.
Merci. Oui, je voudrais rappeler un mot d'Auguste Comte. Il n'y a que l'objet qui forme ou qui cultive. L'objet, c'est l'objection. C'est l'autre. C'est que ce que je ne suis pas, ce qui me limite, et vous avez à plusieurs reprises souligné l'importance dans le processus éducatif de l'existence d'une distance. On aurait pu employer un autre mot un peu plus fort, mais qui dit la même chose, l'aliénation, la rencontre de l'autre. Et quel est l'objet qui intéresse le plus l'homme? Cet objet, c'est lui-même, dans la mesure où l'homme apparaît à l'homme comme un autre que lui, comme un objet. Voilà pourquoi on a considéré que les humanités ou la culture classique était formatrice parce qu'elle présentait à l'homme lui-même, mais comme un autre, comme ce qui n'est plus, comme ce qu'il aurait à être, mais ce qu'il n'est plus. Alors, je crois que ça, c'est fondamental pour ce qui est du processus de la culture. La culture, c'est l'aliénation. C'est l'aliénation assumée. Pour être soi-même, il faut passer par ce stade de la négation. Et c'est une tradition que l'existence dans l'histoire de ces penseurs qui ont fait l'éloge au titre de la culture, comme constitutif de la culture, de l'aliénation. Et si vous me permettez une dernière fois, mais dans quelque temps, vous ne me verrez plus et je n'abuserai plus de vous. Dites, j'évoquerai volontiers la phrase de Hegel qui considérait que la formation essentielle de l'homme, c'était de le faire se dépayser immédiatement en le jetant dans la culture antique. La culture antique, c'était pour Hegel ce qu'il appelle la fiancée de l'esprit, ce que l'esprit attendait pour être vraiment lui-même. Et on peut dire que dans sa forme, la culture classique pratiquait aussi l'aliénation, parce que l'homme était affronté non pas aux choses immédiatement, c'est-à-dire à ce qui est donné par la perception. Les choses n'étaient pas assez objectives, mais il fallait l'affronter aux mots, et vous avez souligné combien il fallait faire rencontrer à l'élève les mots avant de lui faire rencontrer les choses. Parce que les mots, c'est l'universel, l'universel, c'est l'objectif de la culture, alors que les choses, l'enfant les saisit immédiatement, pas dans leur vérité, mais il les prend pour du vrai, il les saisit dans ce qu'il y a de plus subjectif, c'est-à-dire les sensations ou les perceptions. Alors, c'est ce qui a disparu de la culture, de ce qu'on appelle maintenant la culture, puisque le principe absolu qu'on veut faire prévaloir, c'est que pour cultiver l'enfant, il faut le mettre au centre du système scolaire, c'est-à-dire partir de lui. Partir de lui tel qu'il est et non pas tel qu'il doit être, c'est-à-dire finalement supprimer toute distance dans le processus culturel et en quelque sorte consacrer la spontanéité de l'enfant. Le cultiver, ce n'est pas lui faire rencontrer l'objet ou l'autre, c'est le confirmer en lui-même. Il n'y a guère, je crois, qu'une discipline dans laquelle l'enfant rencontre un autre, un objet, un objectif et un objectif impérieux, c'est le sport. Les trois maîtres principaux ont toujours été le professeur de français, le professeur de mathématiques et le professeur de gymnastique. Actuellement, la culture, en son sens traditionnel, me semble s'être concentrée dans les classes de gymnastique. C'est d'ailleurs le seul lieu, le sport, où l'enfant, l'élève, accepte des modèles, des exemples, et s'efforce de se hisser au-dessus de lui-même. Et un ancien recteur de Paris, Madame Jandot-Massalou, me disait il y a quelque temps qu'il faudrait profiter de cette situation privilégiée du sport pour rebâtir tout le système éducatif français sur la base de ce qui existe encore au niveau de l'éducation physique. En tout cas, ce n'est pas le chemin qu'on prend. On trouve que les mathématiques sont encore trop éloignées des élèves maintenant et on envisage de supprimer de plus en plus leur étrangeté. Alors, ma question, monsieur le secrétaire perpétuel, c'est la suivante. Dans cet éloignement progressif que vous avez magistralement restitué des humanités ou de la culture classique, jusqu'où ira-t-on pour rencontrer un moment où un rebond, puisque vous avez parlé d'un rebond, où un rebond sera possible. Ou alors, est-ce que nous devons prendre notre parti de cette situation tout à fait désolante qui est celle de la culture, de ce qu'on appelle la culture maintenant, en particulier de l'enseignement. Voilà, merci.
Merci, Monsieur le Président. Je remercie mes confrères de poser des questions extrêmement précises, parce que de fait, j'ai cherché à éviter de trop basculer sur la question des sciences humaines, qui posait des problèmes d'épistémologie extrêmement considérables, de définition de frontières, d'identification de disciplines dans lesquelles nous n'aurions pas pu vraiment nous en sortir dans un délai pareil. Donc j'ai beaucoup insisté sur l'évolution. Je voudrais dire, avant de répondre aux uns et aux autres, que l'histoire du passage des humanités au sens où nous entendions dans notre définition antique au royaume des sciences humaines ou des arts libéraux, on les appelle de diverses façons, peu importe, ou des sciences humaines et sociales, c'est une histoire en fait qui est liée sans doute à une évolution interne, conception d'éducation, rapport au savoir, etc., mais aussi à des données tout à fait objectives qui réapparaissent dans les questions que j'ai reçues. D'abord, l'élargissement considérable du public concerné, et qui, évidemment, a posé des problèmes d'adaptation énormes. Et surtout, l'élargissement de l'apport scientifique, qui petit à petit a évidemment fait reculer la crise de 1902, dont parlait M. Soutour, en fait partie, qui a évidemment fait reculer le prédicat des sciences humaines, comme avait reculé Aristote à la Renaissance, hein, le Magister Dixit, qui recule à un certain moment, bon, comme au XVIIIe siècle. En fait, c'est souvent l'histoire des sciences exactes qui a fait reculer le concept d'humanité comme cœur unique des disciplines à transmettre, de ce qui se transmet, de la culture au fond. Donc je vous remercie d'avoir compris que c'était difficile de se basculer dans la seconde partie exclusivement, s'interroger sur les frontières des sciences humaines, précisément parce que on les reconnaît ceci qu'elles n'en ont pas, qu'elles en ont de moins en moins d'ailleurs. Tout à l'heure, quand Madame Delmas Marty évoquait la question des frontières de l'inhumain et du non-humain, c'est une question en particulier qui se pose dans une des disciplines des sciences humaines par excellence, qui est l'éthique, l'éthologie, les rapports de la médecine et de l'humain, toutes ces questions-là. Donc, ils sont vraiment, à tous les cas, qui dépassent ma compétence. Alors, j'essaie de répondre à chacun aussi rapidement et précisément que possible. Alors, Jean Bachelet a rappelé les trois étapes, l'explicatio, l'imitatio et l'emulatio, telles qu'est-il fini par Quintilien. Alors, Quintilien l'a tout à fait théorisé, mais au fond, c'est la méthode d'enseignement antique. On la trouve aussi chez les Grecs. Hein, il faut d'abord être capable de comprendre le texte, c'est-à-dire on déplie, c'est le sens propre d'explicature d'ailleurs, on déplie, on défait, on analyse, y compris grammaticalement un texte, ensuite on essaie de l'imiter, et donc on faisait des exercices à la manière d'eux. On en fait jusqu'au XIXe siècle. Il y a des dissertations de Rimbaud. Il y a des poèmes à la Virgile chez Rimbaud. Il y a des poèmes virgiliens en latin écrits par Rimbaud. Et puis ensuite, alors, l'émulatio dont il a très justement dit à quel point, là, on construisait, à partir de ses propres sujets, une forme de pensée. Mais ça a remarqué très juste parce que on pourrait la replacer dans un contexte historique global. On aurait un peu ça, finalement. Le passage des humanités aux sciences humaines, on serait passé de l'explicatio, disons, ce qui était en gros l'école du Moyen-Âge, hein, où on ruminait, la ruminatio, on répétait sans arrêt des textes qu'on connaissait, à l'éveil de l'âge classique, c'est-à-dire le XVIIe siècle, la première partie du XVIIIe siècle, où on est de plus en plus d'imitatio à partir des données que l'on a dans son temps, et ensuite une émancipation, ce qui est exactement une des traductions d'imitatio d'ailleurs. Donc j'ai trouvé que ce système ternaire marche très bien et c'est une très très juste remarque. Alors Monsieur Saint-Cernin, alors je savais que les Jésuites avaient inventé la navigation, je ne pensais pas qu'elle avait duré si longtemps. Vous me l'apprenez, mais c'est une spécialité jésuite que de considérer que toutes les disciplines se valent. C'était déjà vrai lorsqu'ils étaient en France eux-mêmes, hein, où on faisait. Finalement, quand on restitue sous Jules Ferry, en gros, le tiers temps, c'est-à-dire les faire du carton, de la couture, et faire aussi des mathématiques, et savoir tout utiliser. Et quand on retrouve dans le certificat d'études la totalité de ces disciplines, on se réfère à l'enseignement jésuite. On s'adosse, on cite la théologie de l'enseignement pour que toute discipline qui est faite par l'homme, par l'humain, est d'égale dignité. Et qu'il faut, il faut être un spécialiste de tout, si je puis dire, pendant un moment. En tous les cas, Ils avaient anticipé cette diversité des disciplines. Je crois quand même que ce serait pas non plus très honnête de dire que il est noté tout de la même façon, mais je ne suis pas certain qu'il est considéré dans la même valeur hiérarchique tout de même. J'imagine que il y avait, même si ils avaient fermé le rôle des sciences, je pense qu'ils devaient considérer que les disciplines, les humanités restaient un privilège très important. Alors, sur le baccalauréat et sa rupture des années 90-1906, d'où vient-elle, pose la question de Jean-François Orcival. Je pense qu'elle vient en fait de la poussée démographique qui a commencé à partir de ce moment-là. Lorsque, après la loi de séparation, l'école publique prétend être partout, ce qu'elle essaie de faire, y compris dans les villages où il n'y a personne. Enfin, en Bretagne, les écoles qui sont vides parce que toutes les enfants sont dans les écoles privées. Évidemment, on ouvre très largement une aspiration à une progression vers le niveau du baccalauréat, et on entame un processus qui ne cédera plus jamais. Mais il est très lent. En 1965, 23% d'une classe d'âge a passé le baccalauréat. Je ne sais pas où on est exactement en 1906, je dirais de bêtises, mais on devait être... 4 000.
1900, 4 000 bacheliers.
4 000 bacheliers, ça fait quoi en pourcentage? C'est ça la question qu'il faut savoir.
Les classes d'âge à l'époque, ça doit être 650 000, à peu près.
Donc, il y a 6%. Donc, c'est très difficile de... En tous les cas, la progression était très lente, puis après, elle a basculé après 68, en fait, où là, on en voit des progressions très, très considérables. On passe de 25 à 50, pratiquement, en 5 ans, et puis ensuite, on arrive des chiffres d'aujourd'hui. Cette bascule est une bascule démographique, je crois. Enfin, il y aurait d'autres explications, sans aucun doute, mais l'aspiration à la qualification a été de plus en plus forte. Alors, Chantal Delsos pose la question des rapports entre université et humanité. Je crois en effet que dans l'esprit occidental, l'université, c'était ce qui disait tout de l'humain et qui était ouvert à tous ceux qui relevaient de l'humain. Et qu'il y avait dans l'université comme une idéologie, au fond, qui était considérée que toute... qui n'est de richesse que d'homme, en fait, voilà. Et que lorsqu'on avait dit tout de l'humain, on avait dit le vrai de tout. Et donc... l'université telle qu'elle se développe, en particulier à la fin du Moyen Âge, est une université où les disciplines sont essentiellement tournées autour d'une idée qu'on se fait de l'homme. Ou d'ailleurs, une multitude de planches ou de livres essaient de superposer des figures de l'homme en tant qu'être pensant et des figures de l'homme en tant qu'être physique. Hein, tous ces dessins où on compare l'homme, par exemple, à la map monde, enfin, où on essaie d'imaginer une sorte de système de pensée où la figure humaine serait la même chose que la figure du monde, en fait. Et on a de nombreux textes, documents ou manuscrits de cette époque qui montrent cette recherche obsédante. Et à quoi s'ajoute d'ailleurs que l'on considère que le corps humain et ses proportions sont le canon de toute beauté. Donc, l'université est au fond, on voit les dessins de Michel-Ange, par exemple, l'université est au fond le reflet de cette idée qu'il n'est de richesse que d'homme et que toute perfection est à trouver dans l'humain. Nous sommes très loin de ce que Rémi Brague évoque, ou tout à l'heure Madame Delmas-Sarty aussi, où précisément on va presque arriver à dire l'inverse, à un moment ou à un autre. Alors, Monsieur Pébreau, sur le socle commun, évidemment, vous avez raison, Monsieur Pébreau, lorsque nous avons cherché à créer le socle commun, j'avais lancé cette idée avec d'autres au début des années 2000, nous recherchions à trouver cette sorte de connaissance commune qui ferait que tout homme, normalement élevé, pourrait parler à un autre, en fait. C'est ce que nous obsédait. La grande différence entre la culture scolaire d'aujourd'hui et celle jusqu'à 1950, c'est le consensus scolaire et familial. Les parents avaient appris la même chose que les enfants et considéraient que les enfants devaient savoir au moins ce qu'eux savaient, quitte à en savoir plus. Quitte à ce que cette culture scolaire soit arbitraire. Les départements, les chefs-lieux, les fleuves, une iconographie historique tout à fait partielle et partiale. Hein, Clovis, son baptême, vous connaissez le baptême de Clovis jusqu'à Napoléon, je ne sais plus qui. Bon. Et donc, en passant par Jeanne d'Arc. Donc, on avait une espèce de corpus qui était voilà ce qu'en gros on sait. Et quand on, à la maison, les parents interrogeaient l'enfant, il est interrogé sur les départements, et il lui donnait une claque s'il ne savait pas quels sont les fleuves et les affluents. Ouais. Et nous sommes dit en 2000, on s'est dit, mais est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose de comparable aujourd'hui? Ça serait quoi que tout enfant qui arriverait à 16 ans devrait savoir pour participer de l'unité intellectuelle de son temps? Et c'était ça le socle commun. Et c'est pour ça qu'on a mis le mot culture, parce que ça correspondait exactement à cette définition. Mais évidemment, c'était sans compter sur la multitude des spécialistes qui ont dit, mais comment, mais il n'y a pas telle discipline, vous n'avez pas dit que, il manque ça, et moi, alors, et nous sommes des sous-disciplines peut-être. Bon. Et du coup, on a comblé sans arrêt ce paquet, on a fait une machine absolument énorme, on a retrouvé à peu près tous les programmes de l'histoire de l'humanité, et au fond, on n'est pas arrivé à se réduire, au sens presque physique, à cette réduction que nous souhaitions. Et je le regrette beaucoup. Alors, Rémi Braque a posé trois questions qui tournent autour de la même question. C'est qu'évidemment, comment définir les humanités dans un temps où ce qui est le cœur de cette humanité-là, c'est-à-dire l'humain avec un grand H, ou l'homme, est lui-même mis en cause. C'est évidemment l'une des origines de la crise de l'enseignement d'après 68, parce que ça n'a pas attendu aujourd'hui, pour que on ait beaucoup de mal à légitimer l'école verticale. Celui qui enseigne et celui qui est enseigné, dès lors que toutes les disciplines qui apparaissaient et qui s'appelaient sciences humaines mettaient en cause précisément cette autorité, cette parole. La psychanalyse qui doutait de la manière dont s'émettait, à partir de quel travail interne inexplicable s'émettait tel ou tel propos, le structuralisme qui voyait dans la linguistique ou dans des structures qui dépassaient la liberté humaine les raisons d'être des comportements, le marxisme qui voyait l'homme dans un ensemble de dépendances extrêmement puissantes, et du coup la parole qui s'émet en disant je porte la vérité, je l'enseigne à autrui, était déjà mise en doute. Une ère du soupçon déjà s'installait. Je crois que l'une des sources de la crise post-68 pour l'école, c'est la mise en cause de l'autorité intellectuelle, de la parole affirmée, de la certitude, de la verticalité du savoir. Et dès lors qu'on a créé une espèce d'horizontalité, sur laquelle vous êtes revenu d'ailleurs à la fin, monsieur le président, j'en dirai un mot, où c'est plutôt dans l'échange, dans la communication, dans l'affirmation des identités qui s'expriment, que se fait le savoir, évidemment, l'humain dans tout ça devient impossible à cerner. C'est tellement vrai d'ailleurs ce que dit monsieur Rémi Braque, il le sait, je suis un peu de son avis, hélas d'ailleurs, c'est tellement vrai que l'une grande partie des sciences humaines aujourd'hui consiste à mettre en cause les limites de l'humain. En particulier celles qui relèvent de la biochimie moléculaire, des sciences médicales, de l'étude des neurones, que sais-je, et qui mettent en cause évidemment l'être humain comme identité spirituelle. Et donc l'humain comme canon, dont je parlais tout à l'heure, y compris dans la beauté, quand je répondais à Chantal Delsol, évidemment, est aujourd'hui très mis en cause. Et hélas, si je puis dire, ces disciplines dont je parle sont très vulgarisées par l'Internet, par le numérique, dans les blogs, toute cette mise en cause de l'ordre intellectuel, moral et de l'identité humaine, fait partie de ceux qui se discutent par les non-spécialistes. Et il y a une espèce de crise de l'humain, parce que ceux qui prennent la parole sur le numérique, les blogueurs, sont très souvent anti-humanistes, au fond, tout simplement. C'est pas seulement les sciences exactes qui jouent un rôle là-dessus, mais c'est aussi je crois d'ailleurs qu'une fois, nous en avions parlé à propos de, quand M. Bechler avait organisé des débats sur les experts, que nous avions entendu M. Bronner, il a beaucoup insisté sur ça. C'est-à-dire que cette mise en cause de l'homme comme valeur, elle passe aussi par des réseaux de gens un peu spécialistes. Alors, M. Casanova a rappelé latin et des maths, Napoléon, Alain et Aron. Au fond, ça n'a jamais cessé. C'est simplement ce qu'on pouvait. La section idéale lorsque j'étais lycéen, je l'ai faite d'ailleurs non sans mal, c'était A prime. Nos parents considéraient que c'est pas parce que vous avez latin et du grec qu'il fallait pas être bon en maths. Dieu sait si je m'en souviens, parce que moi j'aurais vécu une chose, c'est de supprimer ce prime de mon cursus, où je souffrais beaucoup. Mais il ne venait pas l'idée de mes parents que je puisse faire autre chose. Donc nous étions quand même dans cette idéologie-là. C'est très très bien d'avoir toutes les humanités, mais tu ne dois pas complètement renoncer pour l'instant à l'esprit scientifique qui viendra ensuite. Et l'école a conservé cette binarité quand même très 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 tardivement. Alors sur le baccalauréat qui est de plus en plus spécialisé, je suis évidemment d'accord avec lui. D'ailleurs, là, beaucoup de textes qui paraissent aujourd'hui sur la théorie de l'école citent abondamment les théoriciens de l'école américaine, en particulier par Dewey, qui était très très souvent cité, en montrant que finalement ils ont été plus modernes que nous, alors qu'on présente toujours les États-Unis comme un pays tout à fait de compétition, et que au contraire ils ont une approche beaucoup plus diverse, beaucoup plus souple, beaucoup plus universelle de la formation, et qu'il faudrait y revenir. Moi, ce qui m'a toujours frappé quand j'ai visité des collèges américains, c'est, je ne sais pas si les disciplines étaient si différentes, mais la confiance donnée à l'étudiant ou à l'élève par le fait qu'on l'invite à chercher par lui-même est une confiance bien supérieure, et ça fait quand même des gens qui sont beaucoup plus gagnants que la plupart de nos élèves qui sont en face de professeurs qui eux-mêmes sont malheureux d'être ce qu'ils sont, qui ruminent leur échec et qui le transmettent aux élèves. Mais il y a une positivité, je dirais, de l'enseignement américain qui frappe énormément. Alors, Monsieur Ménard, les choses et les hommes, c'est les humanités et les sciences humaines. C'est parce que les choses sont devenues trop présentes, c'est parce que les choses ont gagné. Les mots et les choses, où il faut relire Pérec, c'est parce que des choses ont gagné, des objets ont gagné, la mécanique a gagné, la technologie, la mécanique, que petit à petit les choses ont été tellement là qu'il a bien fallu qu'on s'occupe d'elles. Et souvenez-vous de cette époque où, quand on voulait parler de l'humain, on opposait toujours au robot. C'était l'homme ou le robot. La robotisation. Bon. Et donc, en effet, c'est parce que les choses l'emportaient qu'on a cherché à revenir à des sciences qu'on a définies comme humaines pour se séparer ou pour maîtriser, pour se séparer d'eux ou maîtriser la montée des techniques et le pouvoir des choses. Alors, sur la démocratisation, j'ai déjà répondu, évidemment, il n'y a pas d'autre là-dessus. Alors, Monsieur Soutou, les réelles gymnasiums, en effet, moi, je crois que vous avez raison. Je pense que 1902, c'est pas un 1905, et que faire son affaire au latin, c'était aussi faire son affaire à un certain pouvoir, à un pouvoir particulier, à ceux qui l'enseignaient, et qu'il y avait quelque chose de l'ordre, quand même, de la protestation contre le passé. Et que, quand en 1902, on a voulu reconstruire la France, on a cessé cette querelle. Et qu'à ce moment-là, allez, vous retrouvez peut-être les valeurs qui ont fondé l'histoire de l'école, l'histoire scolaire, et qui a assez bien réussi à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. Si j'ai bien compris, c'est ce que vous vouliez montrer. Vous êtes plus spécialiste que moi, mais je crois que vous avez raison, pour parler clair. Alors, Madame Delmas-Partie, l'inhumain et l'humain, j'ai dit tout à l'heure à quel point cette question est revenue à l'actualité. Pour le dire autrement, il n'y a que l'homme pour être inhumain, n'est-ce pas? Bon. Et donc, il faut bien évidemment se mettre d'accord sur ce que l'homme ne doit pas faire pour qu'il soit défini. C'est qui revient d'ailleurs à votre théorie de l'aliénation, Monsieur le Président. Il faut pour qu'on se mette d'accord sur ce qu'il est. Or, aujourd'hui, alors autant pour il semble que dans le lexique antique, défier l'inhumain est une chose relativement faisable, parce que au fond on croit qu'il y a d'un côté la civilisation, d'autre côté ce qu'il faut civiliser, même tout en les respectant cependant. Quand on lit Tacite par exemple, il n'y a pas de mépris de la part de Tacite vis-à-vis des Germains. Enfin, il faut leur apporter la civilisation si possible. Autant aujourd'hui, cette frontière est beaucoup plus compliquée. Pour la raison que nous avons dit en répondant à l'objection très juste de Monsieur Brague, et aussi parce que ce qui pouvait nous paraître inhumain à la guerre n'est plus considéré comme tel. Changer, remplacer une partie d'un corps, faire un être composite à partir de greffes, prolonger la vie ou décider de la mort, tout ça était hors du champ classique de ce qu'on appelait l'humain. Et donc ces frontières poreuses et ces interrogations tout autour ont évidemment fragilisé la définition de l'humain et du non-humain. Et ces problèmes de définition restent extrêmement, extrêmement forts, extrêmement puissants. Et à mon avis, elles ne cesseront plus. Malgré tout, on pourra faire toutes les collèges, les hautes autorités qu'on voudra. Chacun sait que lorsqu'une technique est possible, elle est utilisée. Souvenez-vous de l'excommunication des arbalètes, n'est-ce pas? Bon, on peut toujours excommunier les arbalètes, mais le jour où elles marchent, on s'en sert, et puis c'est tout. Donc, il n'y a pas d'arrêt à la technologie, et je crois que le discours humaniste ou le discours humain sur la technologie est un discours évidemment tout à fait nécessaire, mais de faible portée, hélas, je le crois, enfin, même si on en voit des limites. Alors, Monsieur Vacheron, c'est à quel point je suis d'accord avec lui, puisque lorsque j'étais ministre délégué à l'enseignement scolaire, nous avions restauré un module de lettres et sciences humaines pour la première année préparatoire aux études de médecine. Nous considérions qu'il fallait que les médecins retrouvent un petit peu d'épaisseur, comme ils avaient été naguère. Mais enfin, la technique l'a emporté. Il est vrai que ce sont des techniciens aussi, hein, désormais, de plus en plus. C'est quand même extrêmement technique ce qu'ils font. Hein. Et d'ailleurs, lorsqu'on lit des comptes rendus d'opérations ou de petites interventions, on ne comprend rien à ce qu'ils disent. C'est un vocabulaire d'une technologie absolument formidable. Enfin, vous comprenez, monsieur Charles, mais moi, je comprends rien. Et donc, on voit bien que cette dérive est une dérive qui est liée à la science elle-même. Alors, M. Bourgeois n'a pas pu manquer de terminer son année en se référant à Hegel et à la manière dont il faut s'aliéner. À quel point je suis d'accord avec vous sur le fait que nous croyons à tort, ou les pédagogues modernes croient à tort, que c'est en partant de soi que l'on doit construire son savoir. Je pense évidemment que la culture, le savoir, la connaissance était là avant nous, que nous n'avons pas réinventé les règles de politesse ou d'orthographe, et que l'élève doit découvrir que quelque chose lui est étranger et qu'en se l'appropriant, il sera plus fort. Je dis souvent que la grande erreur des pédagogues modernes, c'est de croire que la liberté est un point de départ, alors que c'est un point d'arrivée, et que ce point d'arrivée suppose le passage par beaucoup d'épreuves, beaucoup d'acceptation d'un renoncement à soi, beaucoup de connaissances des limites, des risques, et beaucoup de connaissances tout court. Et je n'en vois pas, hélas, pour l'instant, beaucoup de signaux. Et pourtant, partout dans le monde, lorsqu'on est en face d'un enfant qui est en difficulté ou qu'on voudrait apprendre, on ne va pas chercher un pédagogue, mais on va chercher une vieille institutrice à la retraite et qui le prend en main et qui lui apprend qu'il y a des choses à savoir. Et pas seulement des choses à aimer, n'est-ce pas? Donc, le discours officiel est démenti par la pratique quotidienne des uns et des autres. Nous savons tous qu'on se grandit en passant par autrui. Je vous remercie.